Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Et bien dans le cadre de cette semaine de la radio, de la fête de la radio, ou je devrais dire presque des fêtes de la radio, puisqu'on fête les 100 ans de la première émission de radio en France, mais également les 40 ans de l'ouverture de la bande FM, et bien on va aller tout de suite quelque part, pas très loin dans les montagnes, où nous attend Nicolas Curien, qui a été membre du CSA, et qui a été aussi, j'allais presque dire, le papa de la radio numérique. Bonjour Nicolas Curien.
Bonjour Stéphane.
Alors Nicolas Curien, je le disais en commençant, vous êtes attaché au développement de la radio numérique au CSA, mais j'aurais voulu savoir quel était le rapport du petit Nicolas Curien, enfant, à la radio.
Le petit Nicolas a été confronté assez tôt aux médias radio parce que mes parents ont eu très tardivement la télévision. Donc mon média d'origine, c'est vraiment la radio. Et mes souvenirs les plus lointains, c'est réfugié sous les draps et sous les couvertures, en train d'écouter à bas bruit la musique à la radio pour ne pas que ça réveille mes frères ni que ça alerte mes parents. Donc pour moi, la radio, c'est vraiment le média de l'intimité, le média du petit garçon blotti. Et écoutant des voix ou de la musique. Mais à ce moment-là, j'étais loin de me douter que beaucoup plus tard, je serais en charge des dossiers radio au CSA.
Nicolas Curien, vous écoutiez, quand vous étiez petit ou peut-être jeune homme plus tard, quelle radio ? Est-ce qu'il y avait une station en particulier ? Vous avez le droit de dire des noms, hein, c'est la fête de la radio.
Oui, il y avait dans ma famille une assez grande tradition de fidélité au service public. Donc les premières radios que j'ai écoutées, c'est probablement France Inter. Et puis j'ai découvert les grandes radios commerciales. Et puis évidemment, à partir de 81 et même un peu avant avec les radios pirates, j'ai découvert la bande FM. Mais aujourd'hui, je suis encore fidèle à la radio, que j'écoute beaucoup dans la voiture ou sur l'ordinateur. Et là, j'écoute plutôt de la musique.
Alors, la radio, j'allais dire de l'époque, c'était aussi des voix. Est-ce qu'il y a une voix qui vous a marqué, Nicolas Curien ?
La voix d'Arthur, pas le Arthur d'aujourd'hui, le Arthur qui commentait la musique de variété.
José Arthur,
oui.
Grande voix du service public, grande voix du pop club à l'époque. Hein.
Et puis évidemment, les voix des chanteurs de l'époque.
Alors justement, vous parliez de la radio et de son évolution. Vous avez eu une autre vie plus tard. Tout récemment encore, vous étiez ce qu'on appelle conseiller au CSA en charge du dossier radio. Votre premier chantier, c'est la radio numérique.
Oui, alors mon premier chantier, à vrai dire, c'est plutôt la télévision, définition. Parce que j'ai pas été tout de suite président du groupe de travail radio. J'étais vice-président auprès de Patrice Gélinet, que je salue au passage. Et j'étais président d'un groupe qui s'occupait de la modernisation de la télévision numérique. Et donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016, c'était le passage. Il y a d'abord eu le passage de l'analogique au numérique. Ça, c'était entre 2009 et 2011. Et en 2016, ça a été la grande bascule vers la télévision haute définition, vers l'image haute définition. Donc c'est le premier chantier dont je me suis occupé quand j'étais au CSA. C'était aussi un beau projet technologique. Et puis ensuite, après deux ans, à partir de 2017, je me suis occupé à plein de la radio. Et le grand chantier, là, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le DAB+. On appelait encore à l'époque Radio Numérique Terrestre.
Donc, la fameuse RNT.
La fameuse RNT. Alors, une de mes actions en termes de communication et d'image, ça a été de remplacer RNT par DAB+. DAB+, c'est le nom de la technologie, c'est Digital Audio Broadcasting, qui était à la fois plus porteur, puisque c'est une marque en fait internationale, c'est un standard international, le DAB+. Et puis l'appellation RNT induisait justement une confusion avec la TNT. Le DAB+, si vous voulez, c'est pas pareil que la télévision numérique, en ce sens que alors que la télévision numérique se développait sur les mêmes ondes, sur les mêmes fréquences que la radio analogique et exigeait une extinction rapide que la télé analogique, pardon, et exigeait donc une extinction rapide de la télé analogique, pour la radio c'est différent puisque le DAB+ n'utilise pas la même gamme de fréquences Et donc, on peut continuer à émettre en FM tout en montant en puissance sur le DAB+, qui est un degré de liberté supplémentaire par rapport à ce qui s'était passé pour la télévision.
Alors, le DAB+, il s'installe aujourd'hui en France. Tout récemment, de nouvelles radios sont arrivées en Île-de-France. Il y en a qui arrivent un petit peu partout en France. Allez, la Bretagne, c'est pour très bientôt également. On pourra écouter Bretagne 5 en DAB+, d'ailleurs, à Brest. Voilà, là, je fais pour la petite publicité, la petite promotion. Mais Nicolas Curien, le DAB+, qu'est-ce que ça va apporter en plus par rapport à la FM ?
Alors, d'abord, un son de meilleure qualité, parce que avec la FM, la qualité du son diminue avec la distance à l'émetteur. Vous avez des grésillements, des interférences avec d'autres radios, ce que vous n'avez pas du tout en transmission numérique sur le DAB+. La qualité du son est absolument homogène sur toute la zone de couverture. Donc, un son de meilleure qualité. Une plus grande variété de radios, puisque... le DAB+ se développe en plusieurs couches, des couches locales, couches régionales et couches nationales. Et si on cumule toutes ces couches, le potentiel de nombre de radios différentes, de stations de radio différentes en un point donné du territoire, c'est une cinquantaine.
Ce qui est considérable.
Une cinquantaine partout, en tout cas, voilà, que vous soyez en pleine campagne ou que vous soyez au cœur des villes, à terme, quand le DAB+ sera déployé, vous aurez une cinquantaine de radios partout. Alors qu'avec la FM, la distribution est très inégale. Dans les zones densément peuplées, on peut avoir jusqu'à 30 ou 50 radios FM, mais dans les zones moins peuplées, on peut avoir 5, 2, 1 ou pas du tout même de radios FM. Donc disons une plus grande diversité de programmes et d'opérateurs. Ça, c'est un point très important en termes de pluralisme, puisque le média radio, c'est par excellence le média du pluralisme, des courants d'idées et d'opinions, et des programmes musicaux, thématiques, etc. Et donc, le DAB+, c'est un vecteur de ça. Et il y a une plus grande écoute aussi, de plus grande facilité d'écoute en mobilité, puisque l'ordinateur de votre voiture va vous rechercher automatiquement la fréquence sur le parcours, sur un parcours autoroutier, par exemple, puisque bientôt, vous savez que l'axe nord-sud autoroutier de Paris à Marseille va être couvert. Et là, donc, vous pourrez écouter continuellement votre radio préférée. Et aujourd'hui, ça c'est important parce que l'écoute en mobilité, l'écoute de la radio en mobilité va croissant. Pour certaines radios, c'est au-delà de 2/3 de l'auditoire qui écoute dans sa voiture.
Alors, voilà. On n'appelle plus une fréquence, finalement, on ne cherche plus la fréquence, on appelle sa radio préférée.
Oui, absolument. L'entrée est par le nom de la station. Alors, il y a un autre atout important, qui celui-là est pour les opérateurs de radio, c'est que le DAB+ va leur permettre de garder une autonomie par rapport aux acteurs de l'Internet. Parce que l'AFM n'étant pas une technologie numérique, à terme, elle se serait nécessairement éteinte. Mmh. Et si on ne la remplaçait pas par le DAB+, les radios perdraient le contrôle de leur mode historique de distribution, qui est la diffusion par les ondes. Donc, en fait, promouvoir le DAB+, c'est préserver pour les radios à terme une diffusion par les ondes. Et c'est très important, et je pense que vous ne me contredirez pas, pour une radio d'avoir à la fois un pied sur les ondes et un pied sur Internet.
Voilà, les deux finalement sont complémentaires. Alors certains esprits ont un peu chagrin, on dit le DAB+ arrive trop tard, Internet est là, c'est un peu un rouleau compresseur. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça ?
Exactement ce que je viens de vous répondre. Le monde numérique, c'est un monde effectivement extrêmement compétitif, et c'est un monde aussi multi-support. Donc les acteurs, j'ai aussi beaucoup entendu dire que les radios devaient être sur la défensive, devaient résister à la poussée numérique. Je ne crois pas du tout que ce soit en termes de résistance ou de résilience, c'est plutôt en termes de développer des modèles d'affaires gagnant-gagnant avec les acteurs du numérique. Et les radios ont des atouts à jouer, à condition évidemment qu'elles numérisent tous leurs supports. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel de numériser le support des ondes. Et non seulement ça ne vient pas trop tard, ça vient peut-être un peu tard, mais sûrement pas trop tard, et surtout c'est nécessaire. Parce que tout ce qui n'est pas numérique disparaîtra à terme.
Alors Nicolas Curien, il y a aussi les habitudes d'écoute. Alors on écoute, vous l'avez fort justement souligné, beaucoup la radio dans son automobile, en mobilité en règle générale, dans les transports en commun aussi. Et puis il y a une nouvelle façon d'écouter la radio avec le podcast. Alors il y a déjà plusieurs années que ce terme est entré dans nos oreilles, le podcast. Jusque-là c'était, voilà, on rediffusait les émissions. Aujourd'hui on fait du podcast natif. Est-ce que le podcast a été un peu dangereux pour la radio en ce sens? J'entends pour la radio linéaire, celle qui s'écoute en direct, ou finalement c'est un écosystème qui peut cohabiter, voilà, tout simplement.
Ah ben moi je pense que c'est un écosystème extrêmement vertueux et positif, et on peut faire d'ailleurs là aussi le parallèle avec l'image et la télévision. En télé aussi, il y a des contenus de télé de rattrapage ou de vidéos à la demande qui sont qu'on appelle l'image non linéaire, ou les contenus non linéaires qui sont complémentaires des contenus flux qu'on a avec les chaînes de télé. Ben pour la radio, c'est exactement pareil. Il y aura tout un continuum, tout un tissu de supports différents, des supports par les ondes, la FM, le DAB+, peut-être demain la 5G, les supports sur Internet à travers les plateformes de streaming, et actuellement sur ce marché des plateformes de streaming, les grandes radios privées, publiques et les radios indépendantes ont monté ensemble un radio player. C'est lancé il y a quelques jours, donc sont mis en bonne position compétitive sur le marché de la distribution de la musique sur Internet. Et puis il y a aussi donc deuxième segment, c'est ces plateformes, et troisième segment, les podcasts. Et quand je dis des segments, ces segments, en fait, se recouvrent les uns les autres. C'est-à-dire, sur une même plateforme, vous pouvez avoir à la fois de la radio en flux linéaire, vous pouvez avoir à la fois des contenus accessibles en streaming, des podcasts. Et donc, les différents types de contenus se mixent sur les différents types de supports. On est dans un monde, si on prend une comparaison avec les chaînes de restauration, de distribution, commercial ou alimentaire, ben vous pouvez soit commander en ligne, soit aller retirer faire du click and collect, aller retirer votre marchandise au drive, soit encore aller faire vos achats physiquement dans le monde réel. Et ben c'est pareil, l'univers numérique n'exclut pas l'ancien monde physique, il est complémentaire, le développe, le prolonge, et les différents modes d'accès coexistent. Donc radio, podcast, c'est parfaitement radio par les ondes, radio sur Internet et podcast, c'est parfaitement compatible, et ça enrichit les possibilités pour l'auditeur.
Alors Nicolas Curien, d'aucuns aussi ont dit il y a déjà plusieurs années que finalement la radio disparaîtrait, comme on avait dit que le cinéma disparaîtrait lorsque la télévision est arrivée. Quel est l'avenir selon vous? Alors on va faire un peu de prospective là, Nicolas Curien. Quel est l'avenir de la radio aujourd'hui?
Je reviens d'abord sur la première partie de votre propos sur l'évolution, cette image fausse d'une évolution technologique ou une espèce technologique émergente tuerait la précédente. On n'a jamais observé ça. Et de ce point de vue, la technologie, c'est comme la biologie. On n'a jamais observé non plus une disparition de toutes les espèces existantes quand une nouvelle espèce apparaît. Donc là encore, on est dans un monde, tout à l'heure on évoquait finalement la dimension spatiale de la diversité avec la coexistence de différents supports et différents contenus. Là, on aborde plutôt la continuité naturelle la continuité temporelle, pardon, de la diversité radiophonique ou télévisuelle. Donc, si on fait un peu de prospective, moi, ce que je vois, c'est effectivement une coexistence de tous ces contenus, tous ces supports, et puis aussi l'émergence de ce qu'on pourrait peut-être appeler la smart radio. Aujourd'hui, il existe des web radios. Les web radios, c'est simplement des versions Internet de radio classique, de radio ordinaire. La smart radio, ça serait une radio qui exploiterait le fait que, puisque vous écoutez de plus en plus en mobilité, on sait vous géolocaliser, donc on sait quels sont les sites d'intérêt autour de vous, que ce soit des sites culturels ou que ce soit des sites de divertissement, des cinémas, des musées, etc. Et ça serait une radio faite pour vous sur mesure, en fonction de vos goûts. C'est-à-dire la radio apprendrait avec un phénomène d'apprentissage si vous vous intéressez plutôt au restaurant, plutôt au musée, plutôt tourisme. Et en fonction de vos centres d'intérêt, vous composerez un flux à partir de briques de base qui serait en fait une base de données de podcast. Donc elle serait intelligente dans la mesure où elle serait adaptée à vos besoins, hic et nunc, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et des goûts que vous manifestez, vous proposez un contenu qui soit en phase. C'est-à-dire que non seulement on aurait une juxtaposition de contenu et de support, du flux et du linéaire et du non-linéaire, mais en plus on aurait une composition intelligente, une playlist enrichie, c'est-à-dire une playlist où vous sélectionnez les contenus et puis on vous les sert en flux. Là, ça serait beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire en fonction de vos requêtes à un moment donné, on vous composerait le flux optimal par rapport à vos goûts.
Voilà, la radio intelligente.
Ça serait de la radio intelligente, mais reste à savoir si ça serait aujourd'hui, au sens du droit, c'est pas de la radio, parce que la radio, légalement, c'est un mode de diffusion point à masse, un émetteur vers tout le monde. Alors là, ça serait vraiment de la radio point à point.
Voilà, on change tout l'aspect de la radio tel qu'on pouvait l'imaginer jusqu'alors.
En tout cas, ça serait, oui, un assez grand bouleversement, mais ça permettrait, un des rôles très importants de la radio aujourd'hui, c'est le lien intime, c'est-à-dire faire remonter la parole depuis les territoires. La radio, c'est un média incarné par excellence, c'est-à-dire fait par des humains et à destination d'humains. Et c'est fait non seulement par les humains programmateurs, mais aussi par les humains auditeurs qui remontent la parole. Donc là, le numérique démultiplierait ces possibilités-là en conjuguant l'humain et l'algorithme. On oppose aussi souvent assez naïvement, en quelque sorte, l'humain et l'algorithme en disant les robots, les machines vont tuer les humains. Et aujourd'hui, effectivement, la différence principale qu'il y a entre une radio au sens traditionnel du terme et une plateforme... De streaming, c'est effectivement que l'un, la radio est un média incarné, alors que l'autre est un média gouverné par un algorithme. Mais vous pouvez, le bien n'est pas d'un côté et le mal de l'autre. Vous pouvez faire mieux en combinant les deux, en combinant de l'intelligence artificielle avec de l'intelligence humaine. Vous pouvez fabriquer en fait des programmes plus utiles que ne seraient des programmes purement engendré par une machine ou purement animé par des humains.
Voilà. Quand même garder l'aspect humain avec la machine.
Absolument. C'est ça que je voulais dire. Probablement le principal atout de la radio historique dans le monde numérique, c'est son incarnation humaine. Et ça, elle doit absolument le garder, même si elle peut l'enrichir par l'algorithmique.
Alors, on parle cette semaine d'histoire de la radio. Alors là, on est dans la prospective Nicolas Curien, bien sûr, avec la radio de demain qui gardera des bases, mais finalement ne ressemblera pas à celle d'hier, forcément, l'évolution étant passée par là, tant du point de vue humain que technologique et des habitudes aussi. Aujourd'hui, la radio a 100 ans, l'AFM a 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut se dire de tout ce temps passé quand on regarde un petit peu en arrière? Qu'est-ce qu'on devrait retenir sur cette évolution de la radio?
D'abord, effectivement, que les évolutions sont longues, et qu'il n'y a pas de discontinuité brusque. Au début, la radio, les premières émissions depuis la Tour Eiffel, c'était des émissions en grandes ondes, je vais vous faire sourire, ou en ondes moyennes et en modulation d'amplitude.
Je connais.
Comme on en trouve encore dans certains petits villages bretons.
Voilà, une radio qui parle aux marins, utilise encore l'onde moyenne, mais qui se modernise en arrivant en DAB. Voilà.
Voilà. Oui, alors, c'est ça, vous avez des transitions douces, d'évolution technologique, un écosystème qui évolue avec des espèces technologiques qui montent en puissance et d'autres qui déclinent. Donc aujourd'hui, les grandes ondes ou les ondes moyennes sont complètement marginales. La technologie FM est aujourd'hui la technologie dominante. Elle est en plateau, elle est saturée. On a plus de nouvelles fréquences FM à allouer. Progressivement, le DAB+ va monter en puissance. La FM va décliner puisque c'est une technologie analogique qui ne pourrait pas survivre dans un monde tout numérique. La 5G en mode broadcast va probablement émerger et permettre aussi de transmettre de la radio sur les ondes. Donc ce qu'il faut retenir de cette évolution lente, c'est cette idée, cette analogie avec un système de biologie animale, par exemple, où les espèces, à chaque instant, il y a une multiplicité d'espèces dans un même écosystème et que cet écosystème évolue continuellement et pas de façon brusque par extinction brutale. Ce que je voulais dire aussi de très important, c'est que comme la diffusion va se numériser, puisque le DAB+ sera la première technologie de diffusion numérique, ça va faciliter ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les hybridations entre différents types de contenus sur différents types de supports. Vous êtes dans votre voiture, par exemple, vous écoutez une émission en DAB+, vous savez que sur le DAB+, il y a non seulement le canal qui vous transmet le programme, mais vous avez un canal de données associé qui vous permet de recevoir, d'avoir des informations beaucoup plus riches que ce que vous avez aujourd'hui sur le petite barrette RDS de votre autoradio, des informations sur l'artiste, sur le morceau qui est joué, etc. Ça s'enrichira, c'est-à-dire que le DAB+ va se mixer, va s'hybrider comme il est numérique, il va s'hybrider avec d'autres applications numériques et vous pourrez avoir accès à travers votre canal de données associé à des informations beaucoup plus riches autour qui commentent ou qui prolongent le programme que vous êtes en train d'écouter.
Quel bond depuis la première émission, depuis la Tour Eiffel.
Oui, oui, oui. Il vaut mieux pas trop sauter depuis la Tour Eiffel.
Voilà, je parlais du bond historique, hein. On est bien d'accord. Nicolas Curien, on va se quitter. Quelle radio vous écoutez là aujourd'hui? Là aussi, vous avez le droit de dire des noms.
Oui, je vais faire peut-être des pubs pour les radios locales ou régionales. J'écoute ODS, j'écoute H2O, j'écoute les radios. J'écoute les radios que je peux écouter en FM, puisque le DAB+ n'est pas encore arrivé en Haute-Savoie. Il arrive d'ailleurs à la fin de l'année. Mm-hmm. Donc j'ai déjà mon poste DAB+ qu'on m'a offert en cadeau de départ du CSA et qui est prêt à. Enfin, qui a un poste mixte d'ailleurs qui permet d'écouter la FM. Voilà, j'écoute essentiellement la musique. Pour l'info, je dois dire que je suis plus fidèle à la télé et aux chaînes d'information.
Eh bien, voilà. Nicolas Curien, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour fêter la radio. Et on va la fêter tout au long de cette semaine des 100 ans de la naissance de la radio, en tout cas des premières émissions de radio depuis la Tour Eiffel. Hein, vous y faisiez référence à l'instant. Et puis, la libération de la FM. Alors, je vous ai pas parlé de la libération de la FM, mais en deux mots, comment vous l'avez vécu, vous, cette libération de la bande FM?
Ah très, très favorablement. Vous vous rappelez, donc en 81, j'étais plus petit, mais j'étais encore jeune, donc j'étais emballé par ce mouvement, disons-le, libertaire. Les radios pirates étaient libertaires, c'était la légalisation de ce mouvement libertaire, mais qui a permis l'éclosion d'une diversité formidable.
Dans la diversité.
Et probablement, on vit aujourd'hui avec le DAB+, avec cette expansion considérable de la diversité des radios accessibles partout sur le territoire, un phénomène un peu comparable à ce qu'on a vécu à partir de 81, avec l'explosion du nombre de stations locales, thématiques, communautaires, qui ont joué un rôle fondamental pour le lien social et pour l'évolution de notre société.
Eh bien voilà, on retiendra, Nicolas Curien, que la radio, c'est aussi la liberté et c'est tellement précieux et tellement important. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur Bretagne 5 pour témoigner, pour participer à cette semaine de la fête ou les fêtes de la radio.
Mais oui, absolument.
Merci beaucoup et puis je vous rends à votre Haute-Savoie.
Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ah, vous avez des montagnes aussi en Bretagne, les monts d'Arrée.
Voilà, mais elles sont plus petites, hein, voilà.
avec l'âge, mes ambitions d'escalade sont devenues plus raisonnables.
Voilà, merci beaucoup, bon. Nicolas Curien. À très bientôt.
Au revoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.